Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Il y avait dans l'actualité, avant les attentats que l'on sait, notamment les préoccupations autour de l'Ukraine. Un accord prévu au 15 janvier entre le président ukrainien et Petro Porochenko et Vladimir Poutine, qui devait avoir lieu à Astana au Kazakhstan sous la médiation de la France et de l'Allemagne. Finalement, rencontre qui a été reportée à une date infinie en l'absence de progrès dans la mise en œuvre d'un cessez-le-feu. L'Ukraine qui pose toutes les questions que l'on sait autour notamment de l'Europe. Et l'Europe, c'est pour en parler aujourd'hui que nous avons invité Jacques Rupnik. Bonjour.
Bonjour.
Jacques Rupnik, directeur de recherche au CERI, à Sciences Po, Centre d'études de recherche internationale de Sciences Po. Rappelons que vous avez été ancien conseiller du président tchèque, mais vous l'avez toujours été, conseiller du président tchèque Václav Havel, au fond, en étant son ami. Et puis, donc, grand spécialiste de l'Europe, où nous voulions évoquer à nouveau ces questions justement autour de l'Ukraine. Mais entre-temps, il y a eu, vous le savez, depuis le 7 janvier, les événements que l'on sait. Et la lecture de votre livre n'en reste pas moins d'actualité, cet ouvrage collectif, Géopolitique de la démocratisation. L'Europe et ses voisinages fait un état des lieux, notamment un état des lieux très précis, depuis que, comme vous l'écrivez, les plaques tectoniques de l'après 1989 ne cessent de bouger. Que révèle aujourd'hui l'actualité du terrorisme en France et ailleurs, mais surtout en France après ce que l'on vient de connaître? Que révèle cette actualité, notamment de la question, pour vous, Jacques Rupnik, européenne? Tenez, si je vous avais dit, il y a 15 jours, qu'une dépêche AFP sortirait dans la nuit et titrerait « Grozny, capitale mondiale de la contestation anti-Charlie Hebdo ». Jacques Rupnik.
Oui, ça peut faire sourire, mais seulement à moitié, parce que Grozny, capitale de la Tchétchénie, il faut savoir que...
Il y a 1,2 million d'habitants.
Un peu plus d'un million. Si vous avez 800 000 manifestants, c'est qu'on a vraiment amené toute la population et que donc c'est une manifestation très organisée, très orchestrée par M. Kadyrov, qui est un islamiste tout à fait fervent, mais au service de Vladimir Poutine. Hein. Vladimir Poutine, les Russes ont fait deux guerres en Tchétchénie dans les années 90 et Poutine, en quelque sorte, avait fait sa campagne électorale en 2000. Quand il est devenu Premier ministre, il s'est fait connaître, en fait, par sa guerre en Tchétchénie. Donc là, en quelque sorte, on revient aux fondamentaux.
Retour aux fondamentaux. Voilà. C'est-à-dire que quoi, même dans cette actualité du terrorisme, quel intérêt Poutine a-t-il éventuellement de soutenir des manifestations anti-Charlie Hebdo par rapport justement à ces relations, ces très mauvaises relations avec notamment l'Europe et en particulier la France sur ce sujet-là?
C'est le thème de « on n'insulte pas la religion, on n'insulte pas les religions ». Poutine a fait des procès à Pussy Riot parce qu'elles avaient, en quelque sorte, insulté la religion orthodoxe en faisant leur show dans une église orthodoxe à Moscou. Et là, il joue un peu sur le même registre, on n'insulte pas l'islam. Et moi, là, c'est le côté, voilà, la liberté occidentale. C'est de la provocation. Nous, on est attachés aux vraies valeurs conservatrices et il joue. Donc, il a un islam conservateur en Tchétchénie qu'il espère amadouer pour que ça ne soit pas un islam terroriste. Parce que là, il joue véritablement sur les ambiguïtés. C'est intéressant parce que le discours de Poutine après le 11 septembre, ça a été quand même Poutine le premier à téléphoner à Bush pour lui dire que la Russie était solidaire. Et surtout, le discours à l'époque, c'était « Écoutez, le vrai problème, il n'est pas Est-Ouest. C'est pas nous, votre problème. Le vrai problème, il est au Sud. » Or, avec des manifestations comme ça à Grozny, en gros, sous contrôle du Kremlin...
Oui, on va le dire, il nous montre que le organisé par le Kremlin, quasiment.
Oui, enfin, le problème, il est au Sud et aussi à l'Est. Et peut-être que Poutine fait la jonction à l'Est, parce qu'on a la crise ukrainienne et tout ce qu'on a vu depuis l'annexion de la Crimée. Donc là, on a un problème à l'Est, mais on a aussi maintenant l'implosion du voisinage au Sud de l'Europe. Et Poutine fait la jonction entre les deux, parce que bien entendu, la crise au Sud de l'Europe, c'est lié à toute la déstabilisation du Moyen-Orient, à la Syrie, à l'Iran, etc. Et qui veut se présenter comme l'interlocuteur indispensable des Occidentaux pour régler ses problèmes, Vladimir Poutine.
Voilà. Et l'Ukraine, et quoi, ils sont... Son bouchon de champagne qu'il peut faire sauter à tout moment dans ce contexte-là.
Ben il l'a déjà fait sauter.
Enfin, il l'a déjà,
il l'a déjà fait sauter parce qu'il a, en quelque sorte, faut quand même rappeler que il a utilisé le prétexte de l'accord d'association avec l'Union européenne dans le cadre du partenariat oriental que l'Ukraine souhaitait. Signé, et il a utilisé cela comme prétexte pour déstabiliser la partie orientale de l'Ukraine et annexer la Crimée. Donc, non, là, je pense que c'est une façon pour lui de dire vous avez un problème à l'Est et vous avez un problème au Sud. Eh bien, peut-être, ça c'est évidemment à vérifier, par la suite. Mais peut-être que on peut pas s'affronter sur les deux terrains. Peut-être qu'il faut trouver un accommodement. Et peut-être que voilà, si on trouvait un accommodement sur l'affaire ukrainienne, peut-être que on serait plus coopératif sur d'autres dossiers.
Voilà. Nous y reviendrons bien sûr sur cette affaire ukrainienne. Mais peut-être une question plus personnelle, Jacques Rupnik. Je faisais allusion au fait que vous avez été conseiller du président tchèque Václav Havel de 90 à 92. Il faut dire surtout que vous avez été son ami, tout simplement. Et on sait que, notamment, il fut un temps, avant que les plaques tectoniques ne bougent, avant 1989, l'universalité d'une Europe des Lumières n'était pas étrangère au souci, on va dire, de la révolte ou des révolutions des pays de l'Est. Comment voyez-vous aujourd'hui que cette Europe-là, et après tout, si je vous cite, redécouvre, semble redécouvrir les limites de son droit, mais celle aussi, écrivez-vous, de son soft power, moi j'aurais envie de vous dire, et de son universalité.
Oui, l'idée de la liberté, tout le monde prétend la partager.
Elle a inspiré beaucoup.
Elle a inspiré partout,
la nôtre.
Aux quatre coins du monde. Tout le monde aspire à la liberté et à la dignité. Hein, le printemps arabe, on a dit, est-ce que c'est un remake de 89 ? Oui, au sens où vous avez un soulèvement populaire, oui, au sens où on réclame la dignité, le respect, mais la liberté pour définir ensuite les valeurs qui vont permettre de construire un ordre social, une constitution, un ordre politique, etc. Donc la liberté ne veut pas dire qu'on a la même idée de la démocratie. Liberté et démocratie, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc si vous posez la question générale, l'aspiration à liberté, oui, elle est peut-être universelle, mais on n'a pas la même lecture de ce qu'elle signifie et surtout la façon de la mettre en œuvre.
Est-ce que la France est isolée sur cette question-là aujourd'hui, y compris, tenez, continuons de rester sur... l'Europe. Peut-être question que vous allez trouver superficielle ou superflue. Par exemple, peut-on parler d'une réaction commune à ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo ? Peut-on parler d'une Europe de l'humour, par exemple ? Est-ce que l'Europe serait là aussi divisée, comme elle peut l'être économiquement, entre le Nord et le Sud ? Y aurait-il une Europe divisée même sur les questions, justement, de l'humour ? On voit bien qu'en Grande-Bretagne, on condamne bien sûr les attentats, on est solidaire de la France, mais... on n'est pas enclin à publier de la même manière qu'ici les unes de Charlie Hebdo. Est-ce qu'il y a là des choses qui font aussi sens dans cette Europe introuvable, comme disait Eduardo Lorenzo ?
Je crois que l'Europe de l'humour existe, simplement elle est peut-être subordonnée à d'autres considérations et à son espace selon les pays se restreint ou au contraire peut s'élargir. Dans un premier temps, tout le monde défend la liberté d'expression et ça a été quand même très fort dans toute l'Europe. Mais à peine l'émotion passée, à peine la grande manifestation de dimanche terminée, on a tout de suite vu les fortes réserves qu'inspire cette conception de la liberté.
La presse anglo-saxonne ne veut pas publier les caricatures.
Oui,
au Sud, le pape dit « si tu insultes ma mère, je te mets mon poing dans la figure ».
Oui, et vous voyez, moi j'observe les réactions en Europe centrale et orientale, et là aussi je vois une grande ambivalence, un grand débat. Il y a des pays où on ne plaisante pas avec la religion. Et, par exemple, en Pologne, il n'est pas évident. Les caricatures du pape ne sont sans doute pas très populaires. Et donc, le côté, l'humour qui va à la provocation... parce que Charlie, c'était des provocateurs, avant
bien
tout
sûr.
Des anarchistes,
bien sûr.
Des gauchistes aussi. Oui. Donc voilà, tout ça c'est un cocktail qui n'est pas partagé forcément dans toute l'Europe. Donc dès qu'on parle non seulement du principe général de la liberté d'expression, mais de sa mise en œuvre, on a des grandes différences, et en particulier, alors là, tout le débat sur le multiculturalisme, le modèle français de la laïcité, le modèle français de la république citoyenne. Il y a des pays où on considère que, oui, la laïcité, c'est une bonne chose, mais qu'il faut respecter les communautés religieuses. Et on parle de communauté. Donc voilà, et dans le mot communauté, on a très vite peur de passer au communautarisme. Donc en France, quand on dit communauté, on suspecte communautarisme, la fin de la République. Et dans d'autres pays, c'est le modèle, disons, incontournable pour intégrer des populations immigrées. Prenez des pays, ça a été le cas en Grande-Bretagne, ça a été le cas en Hollande. Tout ça aussi peut évoluer. Parce que je vois que la Grande-Bretagne, qui avait un modèle communautariste jusqu'à il y a une dizaine d'années, est en train d'évoluer. Parce qu'ils ont bien vu que dans les attentats de Londres...
Et a reconnu que notre modèle n'était pas au fond si mauvais que cela non plus, à l'inverse.
Oui, personne n'a la recette miracle, mais qu'en gros, quand on fait un sondage et on demande aux musulmans anglais « Est-ce que vous identifiez plus à l'islam ou à la Grande-Bretagne ?» Vous avez une forte majorité, je crois que c'était plus de 70%, qui d'abord à l'islam, ensuite à la Grande-Bretagne. Quand on fait des sondages analogues en France, on a une majorité qui dit d'abord la France, ensuite l'islam. Donc le modèle républicain, sans doute, ne fonctionne plus comme avant. Néanmoins, les Anglais ne sont pas donneurs de leçons. Ils ont vu, après les attentats de Londres, perpétrés par des musulmans britanniques, nés en Grande-Bretagne, donc d'origine pakistanaise, en gros le même problème. Que les Français avec des extrémistes d'origine algérienne, etc.
Jacques Ruplic, toujours dans la longue introduction de Géopolitique de la démocratisation, hein, qui, je le rappelle, est publiée par les presses de Sciences Po, je vous cite à nouveau, l'Europe redécouvre les limites du droit, mais celle aussi de son soft power, et vous dites un tout petit peu plus loin, l'Europe est tétanisée par un retour de la guerre sur son continent. On a beaucoup évoqué cette notion de guerre après les attentats et les meurtres de Hyper Kacher, Jacques Rupnik. Et puis, chez nos confrères d'ITélé, je crois, Alain Finkielkraut disait « Non, ça n'est pas la France qui est en guerre, mais c'est la guerre qui est rentrée en France. » Est-ce que vous diriez que cette notion-là aussi d'une guerre et que nous soyons tétanisés par son retour et que le terrorisme s'apparente à cette forme de guerre risque de semer beaucoup de troubles et de discordes, y compris dans le concert européen.
Il y a deux façons de voir ce retour de la guerre avec ou sans guillemets. D'abord, ce qu'a fait Poutine en annexant la Crimée.
Oui.
Pour la première fois depuis 1945, une partie du territoire d'un État européen a été annexée par un autre. Donc ça, c'est un acte de guerre et c'est un acte sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Violation des accords de Helsinki de 1975, violation, bref, de tous les accords internationaux. Donc là, les Européens ont découvert qu'ils ont le soft power. Ils ont, en gros, une politique de voisinage qui propose quoi ? Elle propose l'ouverture de leur marché. Elle propose une meilleure circulation des personnes, libéralisation des visas. Et elle propose une aide financière aux réformes dans les pays de notre voisinage. Ça vaut pour l'Est, pour l'Ukraine, comme pour les pays du Sud. Et on pense qu'en échange, ces pays vont adopter des normes de gouvernance démocratique compatibles avec l'Europe. En gros que, voilà, la puissance normative européenne va étendre son influence comme ça. C'est ça le modèle. Or, quand on est confronté à Poutine et à la force brute en Ukraine, ça ne marche plus. Quand on est confronté au Sud, à la guerre en Syrie ou à l'émergence de l'État islamique, et on voit qu'on est dans une autre logique. Là, c'est pas la puissance normative. Là, c'est la sécurité qui revient comme donnée première. Et là, les Européens sont singulièrement démunis parce qu'ils n'ont pas de politique de défense commune. Qui vaillent, ils peuvent faire des déclarations, mais ils n'ont pas de véritable politique commune. Là, c'est les États individuellement qui prennent leurs responsabilités. Et on a vu la France au Mali ou au Centrafrique, etc. Mais sur cette question, disons, de la oui, de la puissance européenne au sens classique du terme, eh bien, les Européens sont divisés. D'abord, ils n'ont pas les moyens collectivement et individuellement. Alors, ils n'ont pas forcément les mêmes priorités ou la même lecture des conflits.
Alors, vous ne croyez pas si bien dire, là aussi, dépêche dans la nuit qui nous annonce que donc, les Européens veulent coopérer avec les pays arabes face au terrorisme. Une réunion des ministres de l'Intérieur européens aura lieu le 29 janvier pour essayer, au fond, de voir comment coopérer avec, je cite, les pays arabes et avec les 28 ministres des Affaires étrangères après les attaques terroristes. Alors, il y a déjà quelques failles. Certains ministres, par exemple, comme le luxembourgeois Jean Hasselborn, a reconnu que cette coopération euro-arabe était utile, mais qu'elle ne devait toutefois pas se faire aux dépens de la démocratie.
Oui, c'est une sage précaution. Un bon principe, pas toujours facile à mettre en œuvre. Parce que, en gros, jusqu'au printemps arabe, la politique européenne et la politique des États européens, je pense que là, on n'a même pas besoin de faire la distinction, c'était, en gros, on préfère s'accommoder de régimes autoritaires qui ne sont pas irréprochables sur le plan des droits de l'homme ou de la démocratie, parce que nous craignons le danger islamiste. Et on avait, en gros, le choix entre les militaires ou les barbus. Et le printemps arabe avait introduit une nouvelle dimension, une troisième dimension. Voilà, il y a un changement démocratique. On l'a vu en Tunisie, on a vu Place Tahrir en Égypte. Et il y a eu soudain ce moment, ah non, il y a une troisième option. Bon, depuis le printemps arabe, c'est devenu l'hiver des islamistes. Et on a maintenant un problème de sécurité qui... à l'exception de la Tunisie, peut-être. Et il faut bien entendu soutenir cet exemple. Et donc, c'est pour ça que cette troisième option du soutien à la démocratie est absolument importante. Et si on peut faire évoluer le Maroc, tant mieux, si on peut encourager ces évolutions. Mais en gros, cet espoir-là a été déçu. Et on découvre donc derrière la promesse de la démocratie une menace de sécurité. Et à ce moment-là, on revient un peu à la case départ. Mais entre-temps, les choses ont changé. Parce qu'on a renversé le régime en Libye. Et on vit avec les conséquences de ça, pas seulement au Mali, en Tunisie.
C'est le chaos en Irak.
C'est le chaos en
Syrie.
Voilà. Oui. Et donc, disons...
Bonne année 2015.
L'intervention américaine de 2003 a provoqué le chaos en Irak. L'intervention en Libye, qui se voulait différente, parce que les Européens disaient « nous faisons le contraire des Américains ». On a un mandat de l'ONU, on a le soutien de tous les pays de la région.
Oui, c'est légal.
Et on n'a pas de déploiement de troupes au sol. Donc on a, en gros, les ingrédients pour faire une intervention contre une dictature. Eh bien, le résultat n'est pas si différent de celui que l'on observe en Irak. Donc là, ça incite à la modestie dans la promotion de la démocratie. Et les Européens, c'est ça le danger, risquent de se replier sur le soutien à toute solution autoritaire qui leur promettent un semblant de stabilité.
On apprend aussi que sur ces questions d'après attentat, Laurent Fabius se rendra au Koweït le 27 janvier, donc après la publication des caricatures de Charlie Hebdo. D'un petit mot, mais nous aurons du temps après, notamment 8h15 avec vous, vous terminez votre introduction en disant il y a les tenants d'une Europe puissance et ceux d'une Europe espace. Jacques Rupnik, vous pensez que c'est plutôt l'Europe puissance qui a gagné que l'Europe espace?
On avait ce débat. En gros, on disait il y a les pays fondateurs de l'Union qui veulent une Europe plus resserrée, plus politique, et donc une Europe puissante. C'était la version française. Et il y a les autres qui parlent d'élargissement, et c'était surtout une vision britannique, une Europe espace, qui serait un grand marché, mais qui serait aussi une influence géopolitique, comme ça au sens très vague du terme. Eh bien, là, on voit que si on veut être une Europe espace, il faut avoir une Europe puissance. C'est-à-dire que si vous voulez jouer, si vous voulez avoir une influence en Ukraine aujourd'hui, il faut avoir la puissance. Si vous voulez avoir une influence au Moyen-Orient, il faut que l'Europe aussi soit capable de déployer de la puissance. Et donc là, on dépasse en gros le débat de la décennie précédente.